prenez une pincée d'infos anti-autoritaires.
On vous demande toute votre attention.
Une pincée de nouvelles de lutte.
Mais on serait taille à lutter.
Un peu de zat.
Pas que du ciel descend, des cendres de mort et de fer.
Un peu de grève.
Puis le temps qu'on crève, de faim, de froid, de tout. On tourne vers la grève.
Du gaz de schiste.
Exploitation de gisements de gaz de schiste.
Du logement. Du
féminisme.
Bon bref, secouez le tout, transvasez dans une bouteille, bourrez-y un torchon imbibé d'essence et jetez-y en direction des forces oppressives.
Canu Info du vendredi.
Membre du FMI et de l'Union européenne, accord sur un nouveau plan d'austérité sur 5 ans.
Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Alors, on a le droit de marquer un sport en guerre. On aura pu rajouter d'autres termes, hein, comme ras-le-bol de la pression, les menaces.
Ce qui est affolant, c'est qu'ils sont prêts à dépenser des sommes astronomiques pour entraver notre grève, tout simplement.
Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Bonsoir.
Ah oui.
Bonsoir.
C'est vendredi.
Bonsoir.
C'est 19h, un peu passé.
Ouais,
et c'est l'heure du Canu Info. Et on va parler de quoi aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, on va parler dans le désordre. Hein. C'est,
ouais, ça va être un peu,
on n'a pas l'ordre, mais
on n'a pas l'ordre précis.
On va s'en sortir. On va vous parler de comment transformer les objets connectés en mouchards, mais ça, c'est pas comment faire pour vous amuser. C'est la surenchère sécuritaire du gouvernement.
Et bien entendu, le retour des brèves nucléaires. Donc ce n'est pas des... Oui, c'est des brèves sur le nucléaire, j'imagine.
Oui.
Pas besoin de prendre votre compteur GGR tout de suite.
Après, on va parler d'une association qui livre des adresses de famille à la préfecture.
Et puis, on vous parlera de Mayotte, où c'est toujours le bazar et où des collectifs bloquent des centres de soins pour empêcher l'accès aux Comoriens.
Et on vous parlera aussi d'une incroyable grève à Disneyland Paris.
Et puis bah, malheureusement, il y a la loi immigration, là, vous savez, ça fait un moment que ça traîne, qu'on en parle, que les LR s'investissent ainsi que le RN. On vous racontera un peu comment on empêche les gens de se soigner.
Et en bonus, on vous donnera des nouvelles de Verbaudet. Verbaudet, on me coupe mon micro, la censure est totale. Eh bien, comme à Verbaudet, il y a eu de la répression, il y en a aussi dans les studios de Radio Canu. Et donc à Verbaudet, les grévistes qui demandaient notamment des augmentations de salaire ont gagné. En tout cas, elles arrêtent la grève. On verra que c'est une victoire en demi-teinte quand même.
On dirait
commentateur
sportif.
Et puis, on aura notre classique maintenant rubrique animaux. Et puis,
il y aura l'agenda, comme d'habitude voilà. Aussi. Vous avez déjà, d'ores et déjà noté que le samedi après-midi, on peut aller à la lutine. Et bien sûr, si jamais vous voulez appeler parce que vous avez un ACAB à proposer, vous pouvez tout à fait appeler les studios de Radio Canu. On vous mettra en direct. Il faut appeler le 04 78 39 18 15. Bonne écoute.
Canu Info.
nationale. Arrêtez un peu les conneries là, non?
Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État?
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Info nationale.
Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite.
Et en parlant de bêtises qui n'a pas de limite, nous, on va vous parler de gens qui sont plus que stupides. C'est en Haute-Loire, c'est la direction d'une structure d'insertion sociale, donc l'ASEA 43, on va quand même se permettre de donner leur nom, qui a donné à la préfecture les adresses de familles en situation irrégulière qui étaient accompagnées par l'association. Donc en gros, voilà, donc c'est au pied en vlec que ça se passe. Et bah là, c'est bien le bordel dans l'association là depuis mars. Parce qu'en vrai, bah, y a 400 salariés qui accompagnaient des familles dont certaines étaient sans droit ni titre et qui se retrouvent à avoir appris que la direction de leur association avait tout simplement balancé à la préf et bah, le nom et l'adresse personnelle de personnes qui étaient accompagnées par l'association. Du coup, donc c'est le directeur général qui s'appelle Bertrand de Foucault, ça s'invente pas, qui est à l'origine de cette décision. Et du coup, les travailleurs sociaux du coup de l'asso sont quand même méga fâchés. Et puis par ailleurs, il y a aussi des familles derrière qui peut-être sont même pas encore tout à fait informées. Alors on rappellera, on ne sait pas bien si ça a une grande importance, mais malgré tout, bah, c'est quand même déjà une infraction au code pénal en vrai, parce que bah, dans le travail social, quand on accompagne des gens, on n'a pas à livrer ces informations. Et c'est surtout en fait comment mettre les gens qui sont dans la merde encore plus dans la merde. Parce qu'en vrai, les personnes généralement qui sont accompagnées par le travail social, elles n'ont pas des situations particulièrement enviables, on va pouvoir le dire comme ça. Et si en plus elles sont accompagnées par des gens qui vont les balancer au deck, parce que c'est quand même de ça dont il s'agit, à la première occasion, bah finalement, on va avoir le choix où en gros, soit tu éventuellement t'es accompagné, mais tout ça pour être balancé à la préf, soit tu te démerdes seul, et du coup, en termes d'accès au droit, ça va quand même être un vrai, vrai problème. Du coup, voilà, c'est 17 familles quand même qui ont été balancées à la préf, dont certaines qui étaient sous le coup d'une OQTF. Quand on voit l'excitation de Darmanin ces derniers mois sur les OQTF, ça laisse un peu penseur. En gros, alors comment est-ce qu'ils ont fait? Parce que quand même, a priori, la préf n'a pas du tout les moyens de contraindre l'association à balancer tout ça, etc. Et ben, en fait, c'est juste des vieux deals complètement pourris et dégueulasses qui sont sur un coin de table, où ils ont promis à l'association qui avait des locaux vraiment bien péraves. La préf a dit, ouais, en gros, tu nous balances quelques familles et puis on pourra faire quelque chose pour les locaux. Et du coup, bah, le directeur de pôle a trouvé que c'était vraiment très très intéressant de faire ça. Du coup, pour avoir des locaux un petit peu moins dégradés, bah, en fait, c'est de balancer des gens qui sont suivis et soutenus par l'association. Voilà, même le conseil d'administration de l'asso, ce qui est quand même assez rare, a dit que c'était vraiment, enfin, que c'était inacceptable, que c'était de la merde. Le gars fait certage, mais enfin bon, quoi qu'il en soit, il est quand même déjà trop tard pour les 17 familles qui ont été balancées par ce con. Et voilà, et heureusement, ils ont quand même eu la décence, le minimum syndical, on va dire, de envoyer un courrier pour prévenir les familles, en fait, que leur nom et leur adresse avaient été donnés à la préf, ce qui est quand même le minimum. Voilà, donc il suffit qu'il y ait un con, finalement, qui a accès à des infos, qui a envie de nouveaux locaux et qui deal avec la préf, que la préf vende... en fait, elles vont rien du tout, parce qu'on pourra vous aider pour vos nouveaux locaux, ça veut juste rien dire. Voilà, et il suffit d'un con, en fait, pour aller balancer et aussi pour aller mettre, évidemment, à mal des familles et peut-être aussi des mois, voire des années de travail qui ont été faits avant. Donc, ce type-là, on va redire Bernard de Foucault, on le remercie pas. Et par ailleurs, s'il y en a d'autres qui auraient envie de faire la même chose, on leur priera de rester chez eux et de rien faire. Ça serait déjà beaucoup mieux que de faire n'importe quoi comme ça.
Et oui, on vient parler de gens qui balancent des gens, qui donnent des informations sur d'autres, et en fait, il y a aussi une autre manière d'avoir des informations, ça va être de vous surveiller. Et ça, l'État français, on le sait, est quand même plutôt un champion du monde, notamment en prévision des Jeux Olympiques. Mais il n'y a pas que les Jeux Olympiques, puisque cette semaine est arrivé le projet de loi orientation et programmation du ministère de la Justice pour les années donc 2023-2027. Et il est commencé à être discuté au Sénat avec plein d'articles un peu foireux, assez liberticides, hein, globalement, pour tracer une direction simple. Dont un en particulier qui crée un nouvel outil d'enquête qui permet d'activer à distance les appareils électroniques d'une personne à son insu pour obtenir sa géolocalisation en temps réel ou capter des images et des sons. Alors, par appareil électronique, on comprend très vite qu'il va s'agir de votre smartphone. En clair, en fait, il s'agira, par exemple, pour les enquêteurs judiciaires, de géolocaliser une voiture en temps réel à partir de son système informatique, d'écouter et d'enregistrer tout ce qui se dit autour du micro d'un téléphone, même sans appel en cours, ou encore d'activer la caméra d'un ordinateur pour filmer ce qui est dans le champ de l'objectif, même si elle n'est pas allumée par son propriétaire. Donc c'est littéralement des logiciels espions. Donc techniquement, en fait, les policiers vont installer le logiciel espion. Pour ça, ils vont utiliser des failles qui sont celles des appareils de ce type. Alors attention à les mettre bien à jour, ça fait un peu moins de failles, ça vous protège un peu contre ce genre de choses. Et puis bah, ensuite, ils pourront prendre le contrôle et transformer vos outils, ceux de vos proches ou différents lieux, tous vos outils électroniques en mouchard. Donc bon, comment est-ce qu'on justifie ce truc? Un peu comme d'hab, hein, en y allant rouler compresseur grave. Donc pour justifier un peu ces atteintes à l'intimité, le ministère de la Justice invoque, je cite, « la crainte d'attirer l'attention des délinquants faisant l'objet d'enquêtes pour des faits de criminalité organisée, de révéler la stratégie établie ou tout simplement parce qu'elle exposerait la vie des agents chargés de cette mission en installant les outils d'enquête ». Alors on a l'habitude qu'il y ait des grosses catégories juridiques qui servent à étendre ce genre de choses, donc là cette fois c'est le grand banditisme. Donc en fait, il serait, disent-ils, trop risqué ou compliqué pour les agents d'installer des mouchards physiques, c'est-à-dire, hein, ça arrive déjà, hein, on l'a vu notamment aux lentillères récemment, donc des micros, des caméras, etc. Et pourtant, ce risque, il est quand même appuyé par un peu aucune information précise, notamment dans le justificatif de la loi. Et surtout, il faut avoir en tête que le piratage d'appareils continuera de passer par un piratage physique, c'est-à-dire que pour installer un logiciel espion, en fait, il faut le plus simple, on peut passer des fois par des failles en arrivant de l'extérieur, mais c'est quand même assez compliqué. Le plus crédible, c'est quand même que la personne de la police ait eu votre téléphone ou votre voiture ou n'importe quoi entre les mains. Donc en fait, le risque, il existe toujours. Attention, justification foirée. De plus, les limites matérielles contingentes à l'installation d'un dispositif de genre constituent en fait un garde-fou contre ces dérives massives d'atteinte aux libertés individuelle, puisque il y a la vie privée, puisque bah en fait c'est pas si simple d'envoyer effectivement des flics installer des micros et des caméras absolument partout. La mesure qui est prévue, elle est particulièrement problématique hein, pour les téléphones portables évidemment et les ordinateurs, puisqu'en fait on en utilise en permanence, qu'on y fait circuler quantité d'informations. Mais le danger ne s'arrête pas là, puisque son périmètre concerne en fait tous les appareils électroniques, c'est-à-dire tous les objets numériques qui disposent d'un micro, d'une caméra ou de capteurs de localisation. Hein, donc ça pourrait permettre de sonoriser, donc écouter un petit peu ce qui se dit à droite à gauche. Alors dans la radio, on n'a rien à cacher, vous entendez tout ce qu'on dit. À partir d'une télévision connectée, par exemple, aujourd'hui on a de plus en plus d'objets connectés, n'achetez pas ça, ça ne sert à rien à part vous permettre d'être fiché. Une télévision connectée, un babyphone, par exemple, il y a des babyphones ouais, qui ont une puce électronique de type SIM. Un assistant vocal comme Google Home, celui à qui vous dites « dites-moi quel temps il fait ». Ou bien encore les micros intégrés dans les voitures, de plus en plus de voitures contemporaines vous permettent pour gagner de précieuses secondes de donner une destination au GPS par la voix, bah tout ça, ça peut potentiellement être utilisé pour enregistrer ce que vous racontez. Et puis tout ça, ça permet aussi de retransmettre des images et des vidéos à partir de la caméra, donc d'un ordinateur portable classiquement, du smartphone, ou d'une caméra de sécurité à détection de mouvement par exemple. Ces caméras que les gens paranoïaques installent partout bah, vont peut-être pouvoir permettre de regarder leurs voisins en plus, sans avoir besoin finalement de passer par des caméras gérées par la préfecture publique, dont on ne vantera pas ici les mérites, mais qui au moins s'inscrivent quelque part dans la loi. Et puis de récupérer la localisation d'une personne, hein, notamment GPS d'une voiture, d'un smartphone évidemment, d'une trottinette connectée par exemple si c'est, vous êtes utilisateur, ou de toutes les personnes qui ont des montres connectées. N'achetez pas ça non plus, ça sert surtout à vous ficher. Donc de nombreux périphériques en fait disposent de ces capteurs pour être piratés. Et puis alors là on donne des exemples assez crédibles, mais il y en a plein hein, des dispositifs connectés aujourd'hui, même des brosses à dents. Alors si ce texte était c'est véritable, si ce texte était définitivement en enquête à Radio Canu, ça déconne pas du tout.
Si ces textes étaient définitivement adoptés, cela démultiplierait dangereusement les possibilités d'intrusion policière, donc en fait en transformant tous ces outils en mouchards potentiels. Et donc en fait, si le projet de loi renvoie à des infractions considérées comme graves, c'est pas vraiment un truc qui va nous rassurer, parce qu'on y croit à moitié à leur truc dont on va surveiller uniquement les grands bandits et les terroristes et les pédophiles, un peu comme d'hab.
Ça dépend finalement si le grand bandit c'est le tout, non?
Ouais, ben bah en fait le grand
bandit. Comment définit-on le grand bandit?
Alors comment définir le grand bandit? Ben bah en fait, les infractions graves qui ont été listées, elles sont relativement longues. En fait, ces mêmes infractions ont déjà été utilisées en fait pour poursuivre des actions militantes. On en parlait à l'instant, enfin pas forcément poursuivre, mais en tout cas surveiller. Mais c'est déjà aussi, on se rappelle, l'état d'urgence en 2015, qui avait été mis en place aussi contre le terrorisme et qui a surtout servi à emmerder des gens en banlieue, parce qu'ils étaient un peu trop arabes, et puis d'autres qui étaient militants écologistes, par exemple. Ce soit aussi à l'encontre de personnes solidaires avec les migrants accusés, ce genre de techniques ont déjà accusé d'aide à l'entrée, notamment, vous savez, cette chasse permanente aux passeurs qui créeraient des appels d'air, ça a été utilisé dans ces techniques-là. Ça a été utilisé pour poursuivre et surveiller des gens qualifiés récemment d'éco-terroristes ou encore des militants-militantes contre l'enfouissement des déchets nucléaires à Bure. Donc plus généralement, le spectre des infractions visées, comme je le disais précédemment, peut aussi dépasser l'imaginaire de la grande criminalité, puisqu'ils sont inclus notamment la production et la vente de stupéfiants, donc quelle que soit l'échelle, donc si tu fais pousser un peu d'herbe chez toi, on va pouvoir la regarder, mais aussi le simple... le proxémétisme fait partie de ça, la définition est très très large du proxémétisme aussi, parce que ça peut inclure la seule aide à une personne travailleuse du sexe, si vous soutenez une personne qui est en galère, vous pouvez être poursuivi pour ça. Les vols en mode organisé sont aussi concernés, etc. Donc concernant la technique de géolocalisation des objets connectés, on va en dire un petit mot pour finir. Le spectre est encore plus large que celle de l'écoute et de la captation d'images, puisque l'activation à distance pourra concerner toutes les personnes suspectées d'avoir commis un délit puni de 5 années de prison. On vous laissera vérifier la liste, c'est très très long. Ce qui, en raison notamment de toutes les lois dont on vous parle régulièrement, de ce que on qualifie poliment d'inflation pénale, peut aller par exemple du simple recel, si vous possédez un objet volé, à la transmission d'un faux document à une administration publique, ne faites pas ça, ou encore le téléchargement sans droit de documents d'un système informatique. Alors, si tu télécharges de la musique, c'est pour toi, Adopi va venir te chercher grâce à la localisation de ton téléphone.
Bon, rassurez-vous, ils ont déjà les FAI sont déjà des boîtes noires directes. Il n'y a pas de problème pour Adopi.
Mais le plus inquiétant là-dedans, c'est si on a un petit peu de mémoire, c'est qu'on sait qu'en fait, ce genre de réglementation ont toujours ce qu'on appelle un effet cliquet. C'est-à-dire qu'à la fois, quand il y a un texte d'expérimentation sécuritaire qui est adopté, il est extrêmement rare, même il n'y a jamais de retour en arrière. C'est aussi ce qui nous inquiète sur les caméras, les algorithmes d'analyse biométriques qui vont être mis en place qui sont déjà mis en place. À l'inverse, en fait, à chaque fois qu'on crée une mesure intrusive qui sert généralement de base à des extensions sécuritaires futures, en fait, on fait rentrer de plus en plus de délits potentiels là-dedans. Et puis, il y a un dernier truc qui ne figure pas dans le communiqué sur lequel je m'appuie, c'est que tout ça, en fait, repose aussi sur l'idée que les agents de police respecteraient scrupuleusement les réglementations auxquelles ils sont tenus. On n'en a pas forcément toujours la preuve. Le fichage génétique a été aussi adopté à l'encontre des seuls auteurs d'infractions sexuelles. À la base, c'était ça. Et puis, on a bien vu que maintenant, globalement, si vous débarquez dans un commissariat pour une quelconque raison, vous êtes sommé de donner votre ADN très très vite. Et on estime qu'aujourd'hui, pour vous le dire quand même, et on s'arrêtera là-dessus, 10% de la population française de plus de 20 ans est directement fichée par ADN. Et donc on voit que pour un truc qui est rentré par un truc qui rencontrait une grosse adhésion, il faut lutter contre la pédophilie, c'est avec quoi je m'accorde, on a fini par ficher en masse, et donc a priori, ce qui risque de se produire aussi avec ces dispositifs de mouchards personnels.
Et puis on peut se dire aussi que c'est vachement une forme de coopération internationale, de toujours avoir, on nous bat les oreilles avec la Chine, regardez comment c'est grave, nous ce qu'on fait c'est pas grave. Et en fait cette inflation sécuritaire et de surveillance constante et perpétuelle, il y a toujours la Chine, c'est de pire en pire en fait, et du coup ça ouvre la porte à tous les autres derrière qui peuvent toujours dire regardez c'est pire ailleurs, et derrière on peut faire un peu ce qu'on veut. Comme avec les JO, on peut imaginer il y a 10 ans si on disait qu'on allait faire de la surveillance biométrique de masse comme ça en plein Paris parce qu'il y a les JO et qu'en vrai on va commencer 2 ans avant et s'arrêter écoutez jamais après, certainement, ça serait vachement moins bien passé.
Ouais, et on peut dire un autre truc, c'est qu'il y a à la fois les fantasmes autoritaires des gouvernements de différents pays, mais c'est que c'est aussi un gigantesque business, hein, avec des entreprises qui font des bénéfices considérables, qui sont très très proches des gouvernements, et notamment en France, on a un certain nombre de ces industriels qui sont ici, donc qui sont aussi impliqués, mine de rien, dans la création de ce type de loi qui vont leur permettre de faire gling-gling.
Gling-gling.
Ah, je mime aussi, ouais.
Gling-gling, et du coup, on va vous parler... On va vous parler quoi, nucléaire, maintenant ?
Eh ben ouais, nucléaire. Oui, c'était...
Attends, il y a un jingle.
Ah bon, ok, d'accord.
Canu Info du vendredi.
Car tu m'es cher, je ne compte pas, je ne compte plus. Comme tu m'éclaires au nucléaire, j'ai le ciel bleu. Tu me ramènes quand je déraille un jour sur deux.
Radio Canu 102.2.
Oui, c'est une mini rubrique. Alors, c'est pas des informations hyper fraîches que je vais vous dire, mais c'est plutôt voilà. Bon, je vais vous parler dans un premier temps de l'ASN. L'ASN écrit des rapports, hein, un peu tout le temps dans l'année. Là, on en a écrit un sur notamment l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France pour l'année 2022. Moi, quand j'ai vu ça, en fait, l'ASN a. Moi, je ne me suis pas tapé le rapport, hein, je vous dis tout de suite. Par contre, elle a produit un petit texte qui souligne les points un peu clés qu'il faut retenir de ce rapport, a priori. Et en fait, juste à la lecture de ça, je trouvais ça un peu scandaleux. Donc, je cite. Donc ça, ce que je vais vous lire, c'est ce que l'ASN dit dans son communiqué par rapport à la publication de ce rapport. Donc, l'ASN souligne qu'en 2022, la sûreté des installations nucléaires ainsi que la radioprotection dans les secteurs industriels, médical et du transport de substances radioactives se sont maintenus à un niveau satisfaisant. Alors satisfaisant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qui satisfait et qui est conforme à ce qu'on peut attendre.
Le dictionnaire radiophonique.
Non mais surtout que alors parce que donc satisfaisant, ça veut dire ça. Ça veut dire que c'est conforme à ce qu'on peut attendre. C'est-à-dire que pour la SN, tout ce qui s'est passé en 2022 sur les installations nucléaires et plus généralement dans le monde du nucléarisé. De notre société, pour elle, c'est conforme à ce qu'elle peut attendre. Je vous relis la phrase, sont maintenus à un niveau insatisfaisant.
Est-ce que c'est un peu ironique que tu es en train de faire
tout de suite après, ils font toutefois. L'année 2022 a été marquée par plusieurs aléas sur les installations nucléaires jamais rencontrées jusqu'alors. C'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent. Mais ça reste satisfaisant. Tels que le nombre et la durée des arrêts de réacteurs d'EDF durant l'hiver 2022-2023 et par des fragilités qui persistent dans les installations du cycle du combustible. Ils sont quand même bon, ils sont assez drôles, hein, au final. En tout cas, ce qu'on peut dire, en fait, moi ce que je voulais dire sur ce truc de l'ASN, c'est que c'est un peu l'organisme, on va dire, qui est censé être ce que tout le monde dit un peu le gendarme du nucléaire. Il faut savoir qu'en fait, donc l'ASN, son rôle, c'est un peu de pointer du doigt les différentes anomalies, parce que, par exemple, le niveau satisfaisant dont il parle, il faut savoir que donc l'association Réseau Sortie Nucléaire qui essaie de comptabiliser, de suivre un peu ce qui se passe en termes d'incidents et d'anomalies sur l'ensemble des réacteurs en France, juste en 2022, il y en a 158 qui ont été remontés. Donc ça, c'est le niveau satisfaisant. Sur toutes les autres anomalies qui ont pu être pointées du doigt, hein, par l'ASN d'ailleurs, y a toutes les histoires de canicule et de sécheresse, en fait, où il y a eu quand même en 2022 ils sont revenus sur les rejets qui étaient autorisés. Pour
les températures de rejet.
Température de rejet autorisée donc dans les fleuves, et ça c'était pas arrivé depuis 2003. Et Alors l'ASN se dit, bon, bah, c'était une sécheresse un peu d'une rare intensité. C'est eux qui le disent. Enfin, j'ai envie de leur dire, c'est juste que ça va être comme ça tous les étés. Mais ça, c'est des dysfonctionnements, enfin, c'est des problèmes qui sont assez graves pour les centrales, puisque si elle est pas refroidie, la centrale, elle devient extrêmement dangereuse. Bref, mais tout ça pour dire, c'est que l'ASN, ils sont là un peu pour pointer du doigt ces anomalies, donc c'est ce qu'ils font. Ils sont là pour imposer des protocoles à EDF. Bon. Ils contrôlent, etc. Mais ils n'ont pas d'action punitive, en fait. Et d'ailleurs, peut-être je me gourre, mais il y a toujours eu des avis positifs concernant les choix stratégiques d'EDF qui ont été prononcés par l'ASN, et notamment, par exemple, les fameuses prolongations de réacteurs. Donc, en fait, l'ASN produit des avis d'incident à longueur d'année, tire des alarmes auprès d'EDF à longueur d'année, parce que les 158 incidents dont je vous parlais tout à l'heure sont souvent appuyés d'avis de l'ASN. Mais malgré ça, ils arrivent à sortir sur leur rapport 2022 que le niveau est satisfaisant. Du coup, ça justifie d'autant plus le problème nucléaire, c'est qu'en gros, voilà, on est tranquille, et c'est d'ailleurs un des arguments des pro-nuc en général par rapport à l'ASN, puisque l'ASN, c'est le garant de la sûreté. Donc, le nucléaire est sous contrôle. Si l'ASN dit que c'est OK, c'est que c'est OK. Mais voilà. Et ça, c'est assez énervant de lire ces rapports-là, quand même. Donc, à chaque fois que l'ASN se prononce en fin d'année ou en cours d'année, donne son avis sur le nucléaire... c'est toujours extrêmement décevant. C'est plutôt des ennemis, hein, je dirais.
C'est marrant parce qu'on parlait de données juste avant et de sécurité. Et le comportement de l'ASN me fait fortement penser au comportement de la CNIL. Vous savez, oui, la Commission nationale informatique et liberté, à chaque fois, on leur montre une loi liberticide. Ils disent, c'est liberticide quand même, faites-la.
Ouais, c'est surtout que la CNIL, en fait, ils donnent des vrais avis, mais comme ils sont que consultatifs. Pour le coup, ils ont tendance à pas trop se mouiller. Même les fois où ils se mouillent, en vrai, comme tout le monde peut dire, en vrai, on en a rien à foutre de ton avis.
Oui, tout à fait.
Finalement, l'avis de la CNIL intéresse la CNIL et c'est tout. C'est dommage.
Bon, après, la SN, je crois qu'elle a un petit pouvoir quand même, mais elle s'en sert pas.
On dirait l'IGPN.
Bon, voilà, c'était sur ce rapport. Je sais pas si je vous encourage à le lire, ça doit être il doit y avoir plein de trucs un peu rigolos dedans. En tout cas, voilà. Et sinon, autre chose, pareil, pas du tout un truc tout frais, tout machin, mais je voulais vous parler du corrigé de la fameuse BD du Monde sans fin. Vous savez, cette BD...
Un best-seller
de...
Le livre le plus vendu de l'année passée.
Donc faut savoir qu'il y a un corrigé qui a été sorti de cette BD. En fait, en quoi consiste ce corrigé? Ça reprend un peu les arguments qui sont posés dans cette BD en déconstruisant ces arguments-là, en pointant du doigt un peu ce qui est justement ce qui est mensonger, ce qui est faux, ce qui est etc. Je vais juste vous lire un peu quelques passages de ce truc. Donc ça, c'est un peu l'introduction qui est faite sur le monde sans fin, lecorrigé.fr. Donc vous pouvez la retrouver sur internet, lemondesansfin-lecorrigé.fr. Voilà, donc le nucléaire est plus efficace, c'est l'un des arguments forts du livre. Le nucléaire est plus efficace pour produire beaucoup d'énergie de manière concentrée, c'est un fait, mais est-ce que c'est vraiment ça l'objectif? Et donc là, après, ensuite, il dit que pour la suite du document, on va voir que c'est aussi très cher en ce qui concerne les nouveaux réacteurs, pas si sûr, voire carrément risqué selon comment on voit le problème, pas à la hauteur des enjeux et hyper long à mettre en œuvre. Parce qu'il faut savoir que cette BD, si vous ne l'avez pas lu, c'est vraiment un truc pour justifier toute l'industrie nucléaire et comme quoi c'est vers ça qu'il faut tendre. Pour sauver le climat, quoi. En gros, c'est ça. Et donc, par exemple, ce qu'ils vont faire, ils vont prendre des choses qui sont citées dans la BD, etc. Donc là, donner un exemple, la page 148, on peut lire, il reste assez d'uranium pour faire fonctionner le parc actuel plusieurs centaines d'années. Alors, il faut savoir que, selon l'Agence internationale de l'énergie atomique et l'Agence de l'énergie nucléaire, les réserves d'uranium représentent entre 80 et 140 ans de production nucléaire, selon les scénarios, Et du coup, on est très loin de plusieurs centaines d'années. Et tout ça, c'est 80 à 140 ans, c'est pour uniquement 4% de l'énergie primaire et donc 10% de l'énergie de la production d'électricité mondiale. Donc ça, ça fait partie des nombreuses phrases qui sont citées dans le document, qui laissent sous-entendre que, par exemple, bah, c'est bon, on est tranquillou, bilou avec l'uranium. Alors après, ce que ça dit pas, c'est... d'avoir l'uranium, c'est beaucoup de conflits dans certains pays, c'est de la misère et c'est de l'exploitation, mais ça du coup voilà, c'est pas très grave a priori, voilà. Et sur ce, donc voilà, donc c'est vraiment très intéressant de lire le corrigé. Si vous avez lu la BD, et ben je vous encourage à lire le corrigé. Et je veux juste rappeler par rapport à cette BD, il y a eu une superbe action qui a été faite en décembre dernier, où plusieurs libraires ont reçu un message électronique de la maison d'édition d'Argo, présentant comme objet « Note à l'attention des libraires, le monde sans fin ». Donc dans ce message, une commission environnement, création récente de l'éditeur, s'adresse aux libraires en leur demandant d'inclure un erratum dans la bande dessinée. Donc c'est un message destiné à corriger une erreur au sein d'un livre lorsqu'il a déjà été imprimé. Cet erratum reprend les différentes critiques adressées à Jean-Marc Jancovici et portant sur son analyse des enjeux environnementaux. Donc je vous lis un extrait. Jean-Marc Jancovici a maintes fois démontré son formidable talent de vulgarisateur scientifique. Nous devons néanmoins reconnaître son manque de compétences flagrant en sciences humaines. Cette lacune lui fait réduire toute lecture sociale et économique à son point de vue d'ingénieur, alors que le développement technologique ne fait pas tout. Donc ça, c'était un exemple. Et le canular avait bien fonctionné, parce qu'il y en a qui ont proposé l'erratum belle action, belle action.
Bien joué.
Mais voilà, je voulais reparler de ce truc, parce que c'est vrai qu'on vit dans un monde très nucléarisé, avec des discours pro-nuque un peu de partout, et du coup je trouve que ce corrigé, en fait, il reprend l'argumentaire qu'on entend régulièrement et il le déconstruit en présentant une autre réalité sur les arguments souvent présentés, continuellement présentés par Jancovici, et puis qui sont repris aussi par le gouvernement actuel. Voilà. Et c'était la fin de la rubrique anti-nucléaire.
Maintenant, on va parler de Mayotte. Parce que depuis avril, y a une opération policière qui s'appelle Wambouchou, on en avait parlé il y a quelques temps, qui, vise à expulser toutes les personnes étrangères à Mayotte, de détruire les bidonvilles, etc. Et en fait, dans ce contexte, y a des collectifs qui se sont créés et en fait qui se sont mis à bloquer les centres de santé et les services hospitaliers pour que les étrangers, notamment donc les Comoriens, n'y entrent pas. On note que cette mobilisation, il n'y a pas eu beaucoup d'opposition à ça. Enfin, cette mobilisation, donc, qui est entre gros guillemets, c'est qui est une mobilisation citoyenne apparemment. Oui.
Les bourgeois de droite sont aussi des citoyens. Les fachos sont aussi des citoyens.
C'est ça. Et donc ces manifestations, elles ont commencé en mai. Donc par exemple, ça a commencé dans un centre hospitalier à Mamoudzou, où donc ces collectifs xénophobes ont bloqué le dispensaire de Jacaranda. Et c'est suite à ça qu'il y a même le centre hospitalier de Mayotte qui a annoncé sa fermeture jusqu'à nouvel ordre, parce qu'il y a eu des affrontements, etc. Il y a eu d'autres centres dans d'autres endroits où il y a aussi eu ces fameux collectifs là qui ont fait des manifestations, etc., contre l'entrée des étrangers dedans. Et ces blocages, ils ont des conséquences graves parce que ils empêchent les personnes d'accéder aux soins élémentaires et mais en plus tant aux personnes, autant aux immigrés que même aux personnes aux Maorais quoi et aux Maoraises qui souffrent aussi de toutes ces mobilisations xénophobes. Donc il y a quand même des soignants qui dénoncent cette situation, mais c'est pas hyper relayé. Et on se dit que c'est peut-être bien pratique aussi qu'on laisse penser que que les populations de là-bas elles soient complètement d'accord avec aussi ce, cette opération policière là où on bouchou, qu'en fait ça fait comme si les personnes elles étaient d'accord et du coup ça donne une certaine légitimité aussi dans les médias. Voilà, parce que du coup il n'y a pas vraiment de réaction par rapport à ça. Il y avait Mayotte Hebdo pardon, qui avait un peu demandé au préfet de Mayotte et qui avait juste dit eh ben, on verra avec le temps comment ça va se passer par rapport à tout ça. Donc apparemment l'État français ferme complètement les yeux sur tout ça. Et voilà, j'ai pas trop de fin à part que c'est très triste. Je sais pas quoi dire de plus.
Et ben ça va pas être facile de faire une transition, mais désolé. On va parler de Disneyland Paris. Ah. Alors non, on vous fera pas la promotion de la dernière attraction ou du nouveau parfum de glace de merde de Disneyland Paris. Par contre, on va vous parler des salariés, parce qu'en vrai, alors moi j'ai appris ça en lisant cet article, sachez que c'est le premier employeur privé d'Île-de-France quand même, Disneyland Paris. Et du coup, c'est 17 000 salariés. Du coup, on n'est quand même pas sur un truc... Enfin voilà, c'est quand même vraiment pas rien. C'est une grosse machine. Ça, on s'en doutait un peu, mais à ce point-là... Et évidemment, bah, comme toutes les grosses machines capitalistes, c'est surtout une machine à broyer du travailleur et de la travailleuse à la chaîne. Et ben dans ces travailleurs et travailleuses, il y en a quand même quasiment 2000 en fait qu'on fait une grosse journée de débrayage. Ça c'était le 30 mai. Alors bon, pour la petite blague, on pourra raconter qu'ils ont chanté Libéré, délivré pendant leur manif. Je sais pas ce qu'on en pense, mais en tout cas ça peut être amusant. Mais c'est surtout que c'est 2000 personnes en fait qui se mettent en débrayage et qui manifestent dans le parc, et ça c'est cool. C'est effectivement du jamais vu, comme nous certifie Paul, qui serait du coup de la section syndicale CMTSO avec 20 ans de boîte. Alors en fait ce débrayage là, ça a été fait à l'appel du, alors je sais pas si on doit dire MAI ou MAI, on va dire MAI parce que c'est plus rigolo, c'est le mouvement anti-inflation des salariés de Disneyland Paris. Du coup, ils en ont un peu marre de se faire traiter comme des merdes par leur employeur et du coup d'être payés au SMIC. Et ils disaient, effectivement, l'inflation, elle est ce qu'elle est. En fait, tout le monde galère de ouf. Et du coup, quand t'es payé au SMIC, l'inflation, tu la prends quand même vachement plus fort dans la gueule que quand tu commences à te faire 3K par mois. Du coup, ils exigeaient 200 euros net d'inflation mensuelle. Le doublement de la rémunération du dimanche, parce qu'on rappelle, a priori, les dimanches, on est censé glander et pas travailler, et une augmentation des frais kilométriques, et la fin des horaires choisis, on y reviendra, vous allez voir, ça vaut son pesant de cacahuète. Du coup, c'est un mouvement historique, et surtout, ce qui est vraiment chouette, c'est la façon dont il est né. Du coup, les salariés racontent, en vrai, ils sont juste mis à discuter entre eux, après leurs heures de travail, à aller boire une petite bière, et en fait, à discuter collectivement du « Ah bah tiens, c'est quoi nos conditions de travail ?» Parce qu'en fait, c'est un merdier, Disneyland Paris, il y a plus de 500 métiers et postes différents. Du coup, on n'a pas vraiment le collègue direct qui fait le même taf que soi, avec qui c'est facile de discuter,
etc. Il n'y a qu'un seul Mickey.
Il n'y a qu'un seul Mickey, qu'un seul Pluto, qu'un seul Dingo, enfin toute la... En tout cas, c'est très éclaté, et du coup, en fait, c'est plein de postes différents, et du coup, des gens qui ont des conditions de travail de merde, mais qui ont du mal à te faire des alliances, parce qu'en vrai, ils n'ont pas de collègues vraiment directs, et du coup, c'est parti de ça, en fait, de salariés qui se sont rencontrés, qui ont discuté de leurs conditions de travail. Et effectivement, leur job n'est pas le même, mais en fait, leurs conditions, c'est de la merde, tout pareil, d'un côté ou de l'autre, et du coup, petit à petit, bon, alors avec des groupes Facebook, on ne vous incitera pas forcément à y aller, mais ça a réussi à créer justement ce mouvement anti-inflation, donc le MAI ou le MAI, et qui a pu quand même faire une grève de 2000 personnes sur 17 000 salariés. C'est, en vrai, c'est quand même vraiment pas rien, surtout quand on est dans une telle machine à individualiser les salariés et à les broyer. Voilà, du coup, on le disait, ils réclamaient évidemment donc une augmentation de salaire et la fin des horaires choisis. Alors les horaires choisis, c'est vachement rigolo, c'est ce truc qui dit que finalement, au lieu de faire des journées de 7 heures, parce que 35 divisé par 5, ça fait 7 heures par jour, ça fait des journées qui sont modulables et qui peuvent durer entre 4h15 et 9h15. Donc là, on se dit, putain, des fois, ça peut être pratique. En vrai, j'ai besoin de mon après-midi, je travaille 4h15, je fais un peu plus le lendemain, pourquoi pas. Bon, sauf que c'est quand on dit choisi, nous, on a l'impression que c'est choisi par le salarié. Là, en fait, c'est choisi par le patronat et l'employeur. Du coup, c'est des horaires subis, hyper modulables, qui, en fait, nient complètement la capacité à avoir des loisirs et une vie de famille des gens qui vont se retrouver, des fois, à se faire des heures de transport. Parce qu'en Île-de-France, évidemment, aller à Disneyland Paris, on fait pas ça en 10 minutes avec son vélo, ça prend des plombes. Et du coup, pour aller gratter 4 heures et rentrer chez eux et en fait ils vont se taper 4 heures de trajet pour bosser 4 heures et
la souplesse
et voilà, et c'est exactement la souplesse et la flexibilité qu'on nous promet en appelant ça des horaires choisis alors que c'est des horaires subis et on pourrait même rajouter de ouf, mais je crois que ça rentre pas dans la loi. Voilà, en tout cas il y a eu ce gros mouvement, ça a pas marché puisque là pour l'instant la direction elle leur propose 125€ de prime annuelle au lieu des 200€ mensuels réclamés, mais du coup ils lâchent pas l'affaire et il va y avoir encore un mouvement de grève qui sera samedi en fait, parce que bon c'est vrai que finalement en semaine les grèves à Disneyland c'est rigolo, mais c'est plutôt le samedi et le dimanche que ça se passe là-bas, et du coup ils vont essayer de mettre le parc à l'arrêt samedi. On leur souhaite évidemment beaucoup de courage et bien entendu d'y arriver.
Et oui, parce que des fois les grèves ça gagne, et donc des nouvelles de Verbaudet, les transitions sont gérées. Verbaudet, c'est quoi Verbaudet? C'est une filature dans le nord de la France, hein. Ils fabriquent notamment les petits pulls un peu pour les enfants jdides du 6e et du 2e arrondissement de Lyon, ça s'appelle Cyrillus, la marque commerciale. Et donc vous avez peut-être entendu parler de ça, parce que les salariés de Verbaudet étaient en grève depuis maintenant quasiment 2 mois. Et ont dû subir une répression extrêmement forte, avec notamment des violences policières importantes. Il y a une des responsables de la CGT locale qui a été étranglée et qui a eu plusieurs jours d'ITT, etc. Donc ça s'est suivi des pressions, y compris physiques, de la police. Et donc, ce soir, on apprend que la grève s'arrête à Verbaudet, puisque la CGT a accepté les propositions de la direction. Donc, on imagine qu'il y a eu quand même des négociations, mais elles ont obtenu, parce que c'est quasiment que des femmes qui travaillent dans ces filatures, elles ont obtenu une augmentation de salaire de 4% pour tout le monde et de 7% pour les salariés ayant 12 ans d'ancienneté, et aussi une prime annuelle de 300 balles. Alors si on compte ça dans l'inflation, en réalité, ça fait pas grand-chose. Et puis elles ont quand même obtenu autre chose qui... comment dire, c'est vraiment pas une super nouvelle en vrai. Elles ont obtenu qu'il n'y aurait pas de poursuite pour le blocage, voilà, de l'usine. Donc en fait, elles ont obtenu juste qu'on respecte le droit de grève. Voilà. Et puis bon, on suivra ce qui se passe avec. Oui, il y avait aussi ce responsable syndical qui avait été frappé par des personnes qui se présentaient comme des policiers en civil à son domicile. En plus, cette personne qui avait été transgénère, on suivra ça. Donc bon, tout ça coûte quand même cher.
Mais dans tous les cas, quand on lutte, on gagne toujours le fait qu'on a lutté, si je puis me permettre.
Et bien pour ce message d'optimisme incroyable.
Migration.
Frontières.
Expulsion.
Centre de rétention.
Frontex.
Asile.
Réfugiés.
Racisme.
Clandestins.
Europe forteresse.
Répression.
Calais.
OQTF.
Oui, no border, mais on va parler de la loi immigration. Voilà. Oui, parce que du coup, la loi immigration, on en a aussi un peu parlé, mais du coup, c'est un peu tout ce qui va mettre des bâtons dans les roues aux personnes étrangères pour qu'elles ne puissent pas trop rester ici. Et par exemple, pour avoir des difficultés à accéder à des titres de séjour, on avait parlé un peu de comment il y a maintenant c'est conditionné à une certaine maîtrise de la langue, etc. Il y avait une histoire aussi de double peine, qu'il ne faut pas avoir de peine de justice, sinon ça empêche aussi qu'on reste en France. Et il y avait aussi la création de titres de séjour par rapport aux métiers en tension, etc. Enfin, ça, c'est un peu toutes les nouvelles, tout ce qu'il y a dans cette loi immigration du moment. Et puis aussi, c'est de ça dont on va parler, c'est l'aide médicale d'État, l'AME, pour les personnes étrangères qui est à nouveau dans le viseur par rapport à cette loi. Donc avant l'annonce du report du projet au mois de juillet, le Sénat avait adopté mi-mars un amendement visant à supprimer l'AME pour la remplacer par une aide médicale d'urgence plus restrictive. Parce que la sénatrice LR avait dit que, donc Françoise Dumont avait dit que nous devons stopper la distribution d'aides incontrôlées qui créent un appel d'air, etc. Que la France ne contrôle plus du tout, blablabla. Donc elle a dit qu'il fallait que ce soit plus restrictif. Et alors l'AME, c'est quoi? C'est une aide sociale de prise en charge des soins pour les personnes étrangères en situation irrégulière administrative. Et depuis sa mise en place en 2000, elle a eu que des coups de budget, des coupes de budget, pardon. Et ça, c'est ce que nous expose Mathias Thiébaud, qui est le chargé de projet de la santé pour la CIMAD en Ile-de-France. Par exemple, il dit qu'en 2011, puis en 2015, il y a la prise en charge de la PMA, des cures thermales et des médicaments à faible remboursement qui ont été supprimés des paniers de soins. En 2018, lors de la dernière loi immigration qui était portée par Gérard Collomb, le Sénat avait déjà tenté de supprimer l'AME, mais ça avait pas été, ça avait fait échec à l'Assemblée nationale. Et ensuite, la loi de finances de 2019 a restreint encore les paniers de soins qui étaient pris en charge par l'AME pendant les 9 premiers mois. Donc derrière cette chronologie, il y a l'idéologie qu'on connaît, qui est l'idée que tous les étrangers sont des fraudeurs, l'idée de tourisme médical, ce truc d'appel d'air, là, machin, prétendu appel d'air. Et Mathias Thiebaud, il dit que c'est insupportable de faire croire que ces personnes viennent se la couler douce alors qu'elles arrivent dans des états de santé dégradés à cause du parcours migratoire et elles sont en plus maintenues dans une situation administrative précaire qui en plus fragilise leur santé. Chez les bénéficiaires de l'AME, la santé n'arrive qu'en quatrième position des raisons déclarées de la migration. Ça fait 9,5%. Loin derrière donc des raisons économiques, politiques, de sécurité personnelle. Donc ça, c'est ce qu'indique l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Surtout, une personne sur deux souffrant de maladies chroniques n'accède pas à l'AME alors qu'elle y a droit. Donc en plus, c'est faux de penser que c'est hyper facile d'avoir ça. Et en plus, sur le terrain, on voit que c'est pas du tout vrai, que c'est facile d'y accéder. La réforme de 2019 exige 3 mois de résidence sur le territoire pour accéder à ça. Et ça, ça a un impact assez terrible. Sur la santé des personnes, tout simplement. Il y a des personnes qui arrivent avec des maladies graves, qui sont dans des situations super compliquées. Il n'y a rien qui est vraiment prévu, en fait, aucune assurance, aucune aide sociale, qui avant ces fameux 3 mois là, de résidence en France. Il existe bien la possibilité d'être pris en charge à l'hôpital via le dispositif des soins urgents et vitaux, mais ça reste ponctuel et juste le temps d'une hospitalisation. Donc ça n'équivaut pas du tout à un suivi médical et une couverture maladie. Depuis la réforme 2019, les demandeurs de l'AME sont aussi obligés de déposer leur dossier physiquement dans une agence de la Caisse primaire d'assurance maladie. Mais en fait, il y a beaucoup d'agences qui ont fermé après le confinement et qui n'accueillent plus du coup ces personnes. Par exemple, en Seine-Saint-Denis, un territoire de plus de 1,5 million d'habitants, il y a juste l'agence de la Courneuve qui les reçoit. Une seule agence pour 1,5 million d'habitants. Et on rappelle que les demandeurs de l'AME sont en situation irrégulière. Donc ça fait un peu de risque parfois de devoir traverser... un département pour aller poser son dossier. Il y a un rapport interassociatif qui a aussi révélé que 64% des personnes interrogées ont rencontré des difficultés pour se soigner, faute de couverture de santé. Et parmi elles, il y en a donc 70% qui ont renoncé aux soins. Ce qui est quand même énorme. Voilà, tout ça aussi, ça fait aussi décupler la charge des associations. Ça augmente le travail quotidien pour faire les démarches en ligne, pour faire les dossiers, pour prendre les rendez-vous, etc., pour aider les personnes en fait à créer ces dossiers. Et c'est inquiétant. Au-delà des personnes que l'on accompagne, ce sont toutes celles que l'on ne voit pas aussi. Ah oui, pardon, j'ai sauté une phrase. Qu'en plus des personnes qui sont accompagnées, il y a en fait aussi toutes celles qui ne le sont pas et qu'on ne voit pas, qui représentent un énorme enjeu de santé publique. Ces personnes arrivent aux urgences dans des états d'autant plus graves auprès des soignants surchargés aux urgences. L'argument se situe aussi sur le plan économique. Les personnes qui ne vont pas se soigner finissent dans des prises en charge plus lourdes et coûteuses. La crise du Covid-19 a mis en lumière les difficultés de l'hôpital public. Bon, je ne sais pas s'il fallait forcément la crise du Covid-19 pour s'en rendre compte, mais en tout cas, voilà. Supprimer l'AME, ce serait ajouter à la désorganisation des services des urgences. Un petit rêve de la droite et de l'extrême droite sur le territoire français. Qu'est-ce que je raconte là-bas? L'AME n'a jamais existé à Mayotte, en fait. Et régulièrement, les défenseurs des droits déplorent cette absence qui accentue de fait la pression pesant sur le centre hospitalier. En fait, du coup, ça fait un rapport direct avec ce que je racontais tout à l'heure sur le fait que les personnes, les Comoriens, ne peuvent pas accéder au centre de soins à Mayotte. En contre-modèle, de nombreuses ONG défendent la fusion de l'AME dans l'assurance maladie. Il faut en finir avec cette couverture spécifique pour les personnes étrangères, ce système de santé à deux vitesses. En demeurant une aide à part, l'AME constitue une cible de choix attaquée à chaque projet de loi de finances ou d'immigration. Olivier Lefebvre a vu défiler des rendez-vous à ce sujet au ministère de la Santé, sous Sarkozy, sous Hollande. La proposition a été à chaque fois mise sur la table. Certains décideurs y étaient plutôt favorables, mais ça s'est jamais fait. Le sujet est un peu trop sensible. Et une phrase d'un directeur de cabinet reste gravée dans la mémoire d'un médecin. Il avait dit « D'accord, on va le faire, une carte vitale. » On va la faire, pardon, on va leur faire une carte vitale, mais elle sera orange pour les différencier. Voilà.
Alors, sachant que tout ça intervient au moment où on commence à parler de la fusion de la carte d'identité et de la carte vitale. Quoi.
Oui, c'est un peu grave, ouais.
Chasser les méchants fraudeurs.
La fusion de l'AME dans l'assurance maladie n'est donc pas pour demain. D'ici là, en juillet, il est probable que la suppression de l'AME soit remise à l'ordre du jour par le Sénat, même si la proposition a peu de chances d'être validée à l'Assemblée nationale. Olivier Véran, ex-ministre de la Santé et actuel porte-parole du gouvernement, avait lui-même défendu son maintien il y a 2 ans. Mais il y a d'autres choses qui nous inquiètent presque plus dans le projet de loi amendé, alerte Olivier Lefebvre. Aujourd'hui, un titre de séjour étranger malade peut être délivré à toute personne qui ne bénéficie pas effectivement d'un traitement dans son pays d'origine, induisant de graves conséquences pour sa santé. Dans sa version de mars, le texte restreint sa délivrance à la non-existence du traitement dans le pays d'origine. Cette nuance fait toute la différence. En théorie, les traitements, par exemple contre le VIH ou le diabète, existent quasiment partout. En pratique, bah seuls les plus privilégiés y ont accès. Voilà. Ben, j'ai à nouveau pas de chute à cette dramatique nouvelle. Donc ça fait un petit bâton de plus dans les roues des personnes immigrées en France, malheureusement, avec ce projet de loi.
Alors qu'on pourrait retirer le Sénat plutôt que l'AME.
Voilà.
Va revoir un rouminé.
Et oui, c'est parti pour la rubrique à niveau de ce soir. Il n'y a que moi qui ai des choses pour la brique à niveau de ce soir, ou
pas? Oui.
Est-ce que tu entends vraiment dans le micro? J'ai l'impression
Oui.
Tu parles dans ton
voilà.
micro.
Si je parle dans le micro, j'ai mis mon casque aussi. Et oui. Quoi? Et ben alors, je tiens à vous dire quand même qu'il y a un certain nombre d'associations qui sont contre la chasse, en déplaise à. Comment il s'appelle?
Woody Charen.
Non.
Woody Charen,
le pied en volet, le pied en volet. Merci. Bon, bah, Laurent Wauquiez, qui aime bien les chasseurs, et ben, qui avait d'ailleurs écrit. Oui, je meuble, hein, parce que je suis en train de me perdre dans mon papier. Laurent Wauquiez, vous savez qu'il a écrit aux dernières élections régionales une lettre avec les sous de la région, donc un petit peu nos sous à tous et tous, signée de lui-même par sa main à tous les chasseurs pour leur dire qu'ils étaient super et qu'ils les soutiendraient contre tous les débiles de la ville. Quoi.
Et quand même, il faut préciser qu'il n'est pas le seul, puisque Emmanuel Macron est un fan de chasse aussi, puisqu'il a notamment divisé par 2 le prix du permis de chasse.
Et contre ça, des associations s'élèvent, figurez-vous. Notamment contre la chasse à la marmotte. Et oui. Ça vous paraît ouf, mais ouais, les marmottes sont chassées déjà. Mais chasser une marmotte, en fait, ça bouge. Du coup, quel est l'intérêt d'aller chasser une marmotte? Je ne comprends pas l'intérêt.
C'est très mignon.
Quel est l'intérêt de chasser?
Quel est l'intérêt de chasser déjà? Mais en plus, il n'y a même pas le truc de il va se barrer ou je sais pas quoi. Non, là, la marmotte, elle est là, elle mange du
tout. En plus, en fin d'été, elles n'arrivent plus à courir, quoi.
Exactement, ça ouvre le 11 septembre. Et donc du coup, ben, il y a des associations qui ont fait une pétition qui exige l'arrêt de la chasse à la marmotte. Et alors pourquoi on a le droit de chasser à la marmotte alors même que c'est protégé par la convention de Berne? La convention de Berne, vous en avez déjà entendu parler, j'imagine. C'est une convention internationale qui la France elle a ratifiée en 1990, j'étais pas né, pour protéger tous les animaux, la faune sauvage et compagnie, quoi. Et la marmotte du coup fait partie de ça. Le problème c'est qu'on n'a pas compté les marmottes. Donc du coup en fait, comme on n'a pas compté les marmottes, on dit qu'on peut continuer à les chasser. Ce qui fait que alors que les marmottes elles sont chassées, alors même que elles sont victimes du réchauffement climatique, de la fin de leur espace, enfin voilà, la restriction de leur espace naturel, du fait qu'il y ait des randonneurs qui leur donnent des sneakers à manger.
Des rapaces.
Ouais, mais alors ça, c'est, bon, les rapaces, c'est presque plus. Enfin, non.
C'est la vie de la marmotte.
Oui, j'ai envie de dire, c'est le game. Quoi. Mais il y a d'ailleurs un arrêté préfectoral qui interdit sa chasse dans le Cantal et les Pyrénées-Orientales, figurez-vous. Et bien, par contre, dans les Alpes, c'est toujours permis. Du coup, cette association propose une pétition, ça s'appelle Aja, vous tapez Aja chasse aux marmottes sur internet et vous trouverez tout. Pour participer au mouvement, ils ont fait des trucs à Lyon et tout quoi. Ils ont fait des happenings contre la chasse à la marmotte et tout quoi. Donc vive les marmottes. Mais il n'y a pas que les marmottes qui prennent cher ou que les associations veulent défendre. Il y a aussi les blaireaux. Alors il y a deux choses. Il y a d'abord dans le Rhône une association de défense des blaireaux qui a contesté un arrêté préfectoral qui autorise l'augmentation de la période de la durée de chasse des marmottes qui va passer au lieu de...
Des blaireaux. Quand on parle de blaireaux, on parle pas de Laurent Wauquiez, attention.
Non, on parle vraiment des blaireaux, l'animal rouge et blanc. Non, pas du tout. Blanc et noir. Et du coup, c'est augmenté là du 15 mai au 15 août. Et surtout, en fait, le problème, c'est ça. Donc l'association s'appelle One Voice. Pourquoi, je sais pas. Mais bon, c'est un article, j'ai pas la fin, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Du coup, juste, bon, voilà, ils ont attaqué en justice, notamment au prétexte qu'il y a encore jusqu'au 15 août des blaireautins. Les blaireautins, c'est le bébé du blaireau. Mais c'est, ça paraît une initiative locale, Rhône, mais il y a une initiative internationale. Il y a 10 associations qui ont porté plainte devant le comité de Berne. Vous vous rappelez le comité de Berne? Oui, voilà, la le 15 mai, c'était la journée mondiale des blaireaux, le 15 mai. Et du coup, il y a des associations dans le monde entier qui se sont mis d'accord pour dénoncer les conditions de déterrage des blaireaux. C'est-à-dire que c'est quand même un concept de chasser le blaireau, c'est-à-dire que tu prends une pioche, une pelle ou j'en sais rien, et tu fais un trou et pour faire sortir le blaireau et le tirer dessus. Quoi. Donc, c'est vrai que non seulement tu fais ça, mais en plus, il y a des bébés dedans. Quoi. C'est vrai que Bon, bah voilà, ça s'appelle des déterrages à l'aveugle.
Ouais, le blaireau, cherchez-le, quoi.
Voilà. Donc, ces associations ont déploré, attaqué. Et tout le monde s'en fiche des blaireaux. Et du coup, à force de se faire attaquer, les animaux, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils se révoltent. Alors, cette chose n'est pas du tout scientifique, je suis désolé. Il y a un certain nombre d'orques, notamment une certaine orque qui s'appelle Gladys.
Comment ça, c'est pas scientifique?
Ce qui est scientifique, c'est qu'il y a Gladys. Il y a Gladys, une orque qui a été attaqué par un a priori qui a été blessé un jour et qui maintenant apprend à ses petits potes à attaquer les bateaux. Donc du coup ils ont attaqué un certain, c'est plutôt genre Portugal, côté espagnol, Gibraltar, Méditerranée, comme ça là. Et il y a des bateaux.
Scientifique, c'est, cette information est tout à fait fausse, même si elle a été reprise dans beaucoup de médias, quoi.
Non, l'information est tout à fait vraie. Elle existe depuis un moment, mais par contre,
de façon systématique.
Le truc scientifique que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est pas parce que Gladys s'est fait attaquer que c'est pas les animaux en général qui sont en train de se révolter. C'est pas parce qu'on bute des marmottes dans les Alpes que du coup les orques attaquent les yachts des riches au Portugal. C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas un consensus médiatique pour dire politique ou scientifique. Pour dire ça. Wow. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'orques qui se battent et qui attaque des yachts et à plusieurs et tout. A priori, c'est une qui s'est pas attaquée et qui apprend à ses petits potes à les attaquer. C'est un truc de ouf quand même. Voilà quoi.
Et sur les orques, d'ailleurs, il y a un film qui raconte ça, Orca de 77, qui raconte la vengeance d'une orque contre les humains qui ont massacré une autre orque. Et je vous encourage à le voir parce que c'est les méchants, c'est les humains dans ce film. Voilà. Comme et Orca, ce c'était d'ailleurs le nom du bateau des Dents de la Mer.
Bref, et sans transition.
On fait quoi maintenant?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est oui en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est.
L'agenda!
Et comme on l'a dit, vous avez des mouchards chez vous, on en a parlé tout à l'heure. Du coup, vous avez internet, vous pouvez aller sur Rébellion pour trouver l'agenda. Nous, on va juste vous raconter ce qu'il n'y a pas sur l'agenda de Rébellion.
Oui, il y a la marche des fiertés rurales qui est à Saint-Martin en Haut. Et c'est rendez-vous devant la place des fêtes sur la place du Plomb à 9h30. Et donc, il y a un accueil, après il y aura la marche, après il y aura un repas partagé, après il y aura une après-midi d'échange, etc. Et pour avoir des infos, n'hésitez pas à taper sur les internets marche des fiertés rurales, Mont du Lyonnais pour avoir plus d'infos. Et puis voilà.
Et puis on vous parlera juste du rassemblement des travailleurs travailleuses du sexe qu'à 14h, c'est lundi, devant le tribunal administratif. Voilà, et comme c'est bientôt l'heure, on passe à la suite.
Mardi, il y a la manif.
Oui, mardi, il y a la manif. On est parti du principe que vous étiez au courant, mais effectivement...
La manif d'enterrement du...
La CAP.
Radio Canu.
Canu Info du vendredi.
Bonsoir Pierre, ce soir ACAB ça veut dire appareil connecté au bûcher. Et oui, débarrassez-vous de vos mouchards. Ils n'aiment pas les mouchards, ils aiment plus la musique. C'est la
à mort les chasseurs qui n'aiment pas les blaireautins.
Ouais, wow. Soutien au soutien au blérotin.
Soutien au blérotin.
Soutien au blérotin et tout de suite un peu de salsa. C'est nice position.